Zamba.
Zambi la Samirana.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.
Bonjour ou bonsoir fidèles auditeurs et auditrices de la radio Inzamba Gatikakawe. Nous sommes dimanche le 15 août 2021. C'est le moment de suivre la rétrospective de l'actualité qui a marqué cette semaine. À la présentation, Josephine Johnson-Wonzeman.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Ouvrons cette rétrospective par la criminalité en commune Kirundo sur la colline Kavumu où dans la nuit du 8 août, une femme a tué son mari à l'aide d'une houe. Les mobiles de ce crime restent inconnus et l'auteur reste jusqu'à maintenant introuvable. Les détails avec Vanessa Muhiteka.
Jean Dengi Ngoma, âgé de 35 ans, est la victime de ce crime commis dans le secteur Gahini sur la colline Kavumu de la commune et province Kirundo. Selon les sources sur place, Jean Dengi Ngoma partageait un verre avec sa femme pendant la journée de ce dimanche. Le témoignage des enfants précise qu'une dispute a éclaté à leur arrivée à la maison. C'est au cours de cette dispute que Jean Dengi Ngoma a été tué par son épouse à l'aide d'une houe.
Arrivé à la maison, vers le soir, Monsieur Jean Dengi Ngoma voulait que sa femme lui serve de la nourriture, tandis que cette dernière s'y opposait. Dans ce conflit, l'épouse avait pris une houe et avait frappé son mari successivement sur la tête et la main. Un doigt a été coupé. Notre intervention en tant que voisin a été rapide pour secourir la victime. Malheureusement, arrivé au service de santé, Jean Dengi Ngoma a succombé sous ses blessures.
Des sources policières à Kirundo indiquent que la suspecte reste toujours introuvable.
Restons au nord du pays, dans la province de Muyinga, où au moins 5 personnes ont été tuées au cours des 2 dernières semaines dans les communes de Giterani, Ngakiro et Muyinga. 3 de ces cadavres ont été retrouvés suspendus sur des cordes. Les autorités administratives qualifient ces crimes de suicide alors que les proches parlent d'assassinat planifié. Des détails avec Blaise Nijimbere.
Le cas le plus récent est celui de Juvenal Niongongere, un jeune homme âgé de 20 ans, retrouvé mort lundi 9 août 2021, pendu sur une arbre tout près de sa demeure sur la colline Kayenzi, en zone Chumba, commune Muyinga. Une source administrative à Kayenzi affirme que Niongongere s'est suicidé, une version contredite par la famille de la victime qui suspecte un assassinat. Un autre corps sans vie d'un certain registre de l'Imana de la colline Nobge, en zone commune Ngakiro, a été découvert le matin de ce lundi 9 août 2021, suspendu sur une corde attachée à un arbre tout près de la latrine de la maison familiale. Selon l'administration, cet homme se serait suicidé, ce que réfute les membres de sa famille. Un autre corps sans vie d'une jeune fille en état de décomposition a été découvert dans l'après-midi du lundi 2 août 2021, vers 14h dans le cours d'eau appelé Ndurumu, du marais de Nakiyange, séparant les communes de Giterani de la province Muyinga et celle de Bwambarangwe de la province Kirundo, selon une source administrative à Mangoma. Claudine Irangunda, 20 ans, qui résidait sur la colline Mangoma, en commune Giterani, était partie le 28 juillet dernier pour irriguer une pépinière de riz, se trouva dans le dit marais et n'était jamais revenu. Un cadavre d'un jeune homme de 25 ans a été découvert l'après-midi du dimanche 1er août 2021, tout près de l'écofond Mangoma, sous colline Katiro, colline Mangoma, en zone Mugano de la commune Giterani. Noël Nivigira, 25 ans, serait tombé samedi de la dernière semaine dans une embuscade tendue par les malfaiteurs, car il entrait de la commune Bwambarangwe, en province de Kirundo, où il venait de déposer un client. Un autre cas, celui des sexagénaires du nord de Mibou Jonathan, célibataire résident de la colline Chibare, en commune province Muyinga. Il a été retrouvé pendu sur une corde dans la maison de son grand frère dimanche dans l'après-midi, selon une source administrative locale. Le motif de cette mort reste jusqu'ici inconnu.
Selon Frédéric Bamvuginyumvira, ancien vice-président de la République et natif de cette province du Nord, le pouvoir a intérêt à s'en débarquer au risque d'être pris pour complice de ces crimes. Suivez Frédéric Bamvuginyumvira.
La criminalité aujourd'hui commence à monter plus d'un cran et on peut se poser la question pourquoi. La question de pourquoi peut avoir plusieurs réponses. La première hypothèse, c'est sur le terrain, les deux gens qui sont tués et que l'administration ne dresse qu'un rapport et que la justice ne dresse qu'un rapport, parce qu'en principe, si quelqu'un est tué, il y a le ministère public qui doit intervenir et condamner les criminels, mais ce n'est pas cela que nous voyons. Alors maintenant, si rien n'est fait, ça veut dire que l'administration de la base au sommet est incompétente. Il y a des personnes incompétentes qui ne comprenaient pas leur mission. Ça, c'est la première hypothèse. Et la deuxième hypothèse, il faut quand même aussi la juger, la comprendre, l'approfondir. Si des autorités laissent des crimes se perpétrer sur le terrain, qu'est-ce qu'on peut penser? On peut penser que l'autorité est derrière cela. Et pourquoi? Peut-être on peut penser qu'elle est en train de préparer les élections de 2025-2027 et que dans l'entretemps, ils doivent préparer le terrain pour qu'il n'y ait plus d'obstacles, qu'il n'y ait plus des personnes de l'opposition. Et comme ça a été observé en 2020, et que c'est le moment de se préparer. Mais comme on ne peut pas le faire juste une année avant, il faut aller petit à petit et écarter les obstacles et en fait traquer la population pour qu'elle soit absolument envahie complètement par la peur. Je crois que c'est cela, c'est la deuxième hypothèse. Si ce n'est ni l'une ni l'autre, la solution c'est quoi? Que l'autorité prouve qu'elle est compétente et qu'elle n'est pas impliquée dans ce qui se fait sur le terrain. Parce que si rien n'est fait, pratiquement, elle s'apprête à être jugée tôt ou tard. Maintenant, pour éviter qu'elle soit jugée tôt ou tard, il faut qu'elle évite justement ce genre de comportement. Nous l'attendons sur le terrain. Dès lors qu'ils apprennent ce message, que nous voyons des comportements qui changent, on comprendra que finalement, il y a des problèmes qui se posent, mais qui peuvent être réglés, que ce n'est pas le pouvoir qui est à la base, que les problèmes se posent autrement.
Au sud du pays, peur panique au sein de la population de la commune de Kibago, c'est dans la province de Makamba. Pour cause, une forte présence des militaires et éléments de la police depuis le début de la semaine écoulée. Selon des informations sur place, les corps de défense et de sécurité craignent les attaques des groupes rebelles qui se seraient infiltrés à partir de la Tanzanie. Les détails avec Diane Ngurunziza.
Une présence inhabituelle de centaines de soldats s'observe en commune Kibago de la province Makamba depuis le début de cette semaine. 5 camions avec des militaires lourdement armés sont déjà arrivés dans cette commune. Selon des sources locales, ces militaires campent à Niko sur la frontière entre le Burundi et la Tanzanie. Et depuis ce mardi, des camionnettes marque pick-up double cabine de la police sont arrivées à Kibago. À bord des policiers lourdement armés, une source militaire révèle leur mission. Ils vont à la recherche d'hommes armés qui s'infiltrent progressivement en provenance de la Tanzanie. Cette source révèle encore que certains parmi ces hommes sont armés à porter des uniformes militaires, mais que d'autres étaient en tenue civile, mais quand même lourdement armés. Sous couvert d'anonymat, la même source militaire affirme que ces hommes ont traversé la rivière Malagarazi dans un endroit communément appelé chez Kavamahanga, dans la direction de Nyakazi. Même si les habitants de la localité ne veulent pas le dénoncer à haute voix, certains ont déjà été réquisitionnés par ces hommes armés, les obligeant à transporter leurs bagages. À leur retour, ils sont interdits de dire quoi que ce soit, selon la même source militaire. Elle précise que des policiers dirigés par Désiré Ouamahoro, patron de la brigade anti-émeute, et le général Étienne Nakalutimana, ainsi que Innocent Mousselemo, responsable de la documentation intérieure, sont déjà à Kibago. Depuis, la peur est palpable au sein de la population de cette commune du sud-ouest du pays. Les habitants affirment que dès la tombée de la soirée, chacun se dirige dans son ménage pour n'en sortir que le lendemain. La rédaction de la radio Inzamba n'a pas encore eu la version du colonel Floribert Biyereke, porte-parole de l'armée burundaise.
Le mouvement rebelle Red Tabara ne compte pas arrêter la lutte armée contre le pouvoir de Gitega. Cela ressort d'un communiqué qui a été rendu public lundi dernier par ce mouvement. Cela est intervenu après une récente remise des 19 combattants de ce mouvement au gouvernement du Burundi par le pouvoir de Gitega. Les 19 rebelles avaient été capturés en septembre dernier par les forces armées rwandaises sur le sol rwandais. Le porte-parole de ce mouvement explique que la lutte continue. Suivez.
Red Tabara informe l'opinion que cet épisode n'est pas inédit dans l'histoire de la résistance au pouvoir fasciste et qu'il ne décourage pas le combat qu'il a entamé, déterminé à libérer le peuple burundais du joug de la tyrannie du CNDD-FDD. Red Tabara n'entend pas commenter un acte relevant de la politique souveraine d'un État. Cependant, ne peut s'empêcher d'exprimer son inquiétude sur le respect du droit international en la matière par le régime du CNDD-FDD, dont les dirigeants ont fait la preuve de leur cruauté, de leur irrespect du droit et des valeurs de justice. Red Tabara suppose que la Conférence internationale des pays de la région des Grands Lacs, CIGRL, sous l'autorité de laquelle a agi le MCVE, est mieux informée et surtout assume pleinement sa responsabilité de garant du traitement conforme au droit international réservé aux combattants remis sous sa responsabilité au gouvernement burundais. Red Tabara rappelle qu'il a pris les armes pour réhabiliter l'état de droit et l'accord d'Arusha qui avait mis fin à une guerre d'une décennie et réconcilié le peuple burundais avec lui-même. Cette lutte est un impératif national, faute d'une résolution pacifique pour le règlement de ce contentieux après l'échec de la médiation est-africaine, en dépit de tous les efforts déployés par les Nations Unies, l'Union africaine et la communauté internationale au soutien de sa mission. La résistance continuera jusqu'à ce que l'objectif de cette lutte soit atteint.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Parlons santé avant de clore cette rétrospective. Le gouvernement du Burundi a choisi la voie du déni sur la pandémie du Covid-19. Les chiffres qu'il avance ne reflètent pas la réalité sur le terrain. Point de vue de Jean Minani, ancien ministre de la Santé, qui interpelle le président de la République de prendre la question en main. Suivez, docteur Jean Minani.
Ce qui est terrible, c'est que plusieurs personnes sont testées positives. On leur demande de rentrer chez eux sans aucune protection, sans aucun consigne, sans prendre aucune mesure. Et ces gens-là vont chez eux, continuent à visiter leur famille, leurs parents, leurs amis et même à participer dans des réunions comme si rien n'était. Si le monde entier, fortement, très mobilisé pour combattre ce fléau, ce qu'il a trouvé très mortel. Il faut que donc le gouvernement burundais prenne conscience de ce fléau. Il continue à nier qu'il n'y a pas beaucoup de cas de coronavirus au Burundi. Parce que tout simplement, depuis le début de l'épidémie, le gouvernement burundais a choisi la voie du déni en refusant de reconnaître qu'il y a le coronavirus, en disant, plutôt en clamant haut et fort, que Dieu protège les Burundais, comme si ce Dieu n'était pas le Dieu de tout le monde, de tout ce monde-là qu'il a créé. C'est devenu donc une politique, une façon de faire une grande propagande. On sait que le Burundi n'avait pas suffisamment de moyens pour faire face à ce fléau. Aujourd'hui, ils vont se réveiller très tardivement. Même quand ils acceptent de commencer à faire le vaccin, alors qu'ils avaient catégoriquement refusé le vaccin, ils doivent trouver des manières de dire « Nous n'avons pas demandé, nous n'avons pas accepté ce vaccin. » Comme s'il en pouvait en être autrement. Dans tous les cas, tôt ou tard, ils seront obligés de le faire. Parce que aujourd'hui, de plus en plus, le pass sanitaire, ou ce qu'on appelle communément le passeport sanitaire, va être obligatoire pour pouvoir voyager dans le monde actuel. Et presque dans tous les pays du monde, les avions vont commencer à l'exiger. Est-ce que les Burundais opteront pour ne plus quitter le Burundi, rester figés au Burundi? Les hommes d'affaires, mais aussi les politiciens, les membres du gouvernement, vont rester à la maison, vont rester cloîtrés chez eux, sans pouvoir voyager. Ça, c'est une question aussi. Aujourd'hui, il faut qu'on sache, lorsqu'un pays est attaqué par une force extérieure aussi terrible que le Covid-19, ce n'est pas le ministre de l'Intérieur, ce n'est pas le ministre de la Santé, ce n'est aucun autre ministre qui se lève pour donner des ordres. C'est le président lui-même qui doit se lever.
Voilà, madame, messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette rétrospective de l'actualité qui a marqué cette semaine. Passez un bon dimanche chez vous. Au revoir.
Ngije nzamba
nzambi rasamirana
rétrospective de l'actualité de la semaine.